Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Allez, c'est parti pour votre journal local de 7h30, préparé par la rédaction, présenté par Wallis Glaise. Les titres, bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Le président du pays, Édouard Fritsch, testé positif à la Covid-19. Ce week-end se tenait le salon de l'habitat, l'occasion de prendre la température du marché de l'immobilier et de la construction. Les précisions dans ce journal. Après plusieurs années de préparation et de prospection, l'association Solidarité Productive s'apprête à se lancer à Marina. Radio 1 a rencontré l'association.
Et le gros titre de votre journal local, c'est forcément le président Édouard Fritsch déclaré positif à la Covid-19.
C'est à son retour de Paris que le président du pays a été testé positif par mesure de précaution et de protection. Sa compagne qui a voyagé à ses côtés a également été testée et négative. Édouard Fritsch avait parfaitement suivi l'ensemble du protocole ETIS. Avant son embarquement à Roissy, il avait été déclaré négatif au test RT-PCR effectué à Paris 3 jours avant son départ, condition impérative. Je le rappelle, pour laquelle il ne peut y avoir de dérogation pour être autorisé à embarquer. Son état de santé n'est pas préoccupant et il sera confiné pendant 7 jours comme le recommandent les autorités.
Et du coup, une question qui agite la toile. Emmanuel Macron est-il cas contact après sa rencontre avec Édouard Fritsch?
Oui, la contamination d'Édouard Fritsch au coronavirus fait parler d'elle en métropole. Rappelons que le jeudi 6 octobre, Édouard Fritsch avait rencontré Emmanuel Macron, le président de la République. De quoi faire justement du président de la République un cas contact? C'est la question. La presse parisienne, elle, s'interroge. Citée par l'AFP, l'Élysée a répondu lundi qu'Emmanuel Macron n'était pas cas contact à la suite de la rencontre, car les gestes barrières avaient été scrupuleusement respectés avec le port du masque et la distanciation, ce qui n'a pas toutefois levé certains doutes et certaines inquiétudes. Plusieurs médias métropolitains révèlent qu'Édouard Fritsch a aussi rencontré le Premier ministre Jean Castex, également le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu le week-end dernier, puis le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le lundi 5 octobre.
Décès d'une figure du tourisme polynésien.
Didier Lamotte, hospitalisé depuis quelques mois en métropole, est décédé samedi. Dirigeant d'établissement hôtelier depuis une trentaine d'années, il avait découvert la Polynésie française en 1994 en prenant la tête du Sofitel Heiva de Huaine. Depuis 2011, il a successivement géré les Sofitel de Porapora, de nouveau celui de Moréa et également celui de Tahiti ces deux dernières années. Il était depuis 6 ans le représentant du groupe Accor Hôtel au Fénois. Il a fréquemment représenté le secteur touristique polynésien au travers notamment du conseil des professionnels de l'hôtellerie. Pour la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, il a marqué de son empreinte et de son expérience riche le développement hôtelier et touristique du pays.
Au salon de l'habitat, beaucoup de projets malgré le manque de visibilité.
Après le coup d'arrêt du confinement, le salon de l'habitat qui s'est tenu ce week-end était un rendez-vous attendu par les professionnels. Certes, la foule était moins nombreuse qu'à l'accoutumée à Mamao, vu les contraintes sanitaires, mais les professionnels ont eu la bonne surprise de voir des clients décidés, prêts à investir dans leurs projets. Le confinement a pu jouer un rôle important, estime Heimana Matapo, gérant de Manaevai Construction.
Avec le Covid, il y avait plus de monde dans la construction. Tout mon planning est rempli, quoi. Mon tableau est rempli, satisfait. Quoi. En fait, on dirait que pour eux, ça ne change pas. Quoi. Ils veulent tous une maison. Après, je ne sais pas si c'est par rapport au Covid, ils ont eu le temps de réfléchir à ça. Hein. Pour la construction, je crois que c'est plutôt pour ça. Hein. Le temps qu'ils sont restés à la maison, ils ont eu dû réfléchir qu'il fallait faire une maison. Quoi. Après, pour moi, ça m'arrange d'un côté. Quoi.
Des commandes, des demandes de devis nombreuses pendant ce salon permettent de remonter la pente justement. Écoutez Laurent Vautier, directeur commercial de Phébus Polynésie.
On a moins de visibilité que l'année dernière. Faut être réaliste hein, par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente. Leur situation économique faisait qu'ils pouvaient plus trop investir ou ils voulaient attendre un petit peu de savoir où on allait. Hein, parce qu'il y a eu des licenciements, il y a eu des baisses de revenus et du coup ils mettent un petit peu leur projet comme ça en stand-by. Quoi. Mais malgré tout, il y a de l'activité et il y a quand même des gens qui continuent leur projet et qui construisent. Et le bâtiment, je pense, se porte quand même plutôt pas mal. Après, on en saura plus dans les mois à venir.
Malgré l'optimisme affiché, certaines interrogations restent encore en suspens. Les professionnels le savent. Les petites entreprises ont pu profiter d'aides ou de reports de crédit qui ne dureront qu'un temps. Pas de quoi démoraliser le spécialiste de l'immobilier, assure le patron de SoftBuys Polynésie, Jacques Ménamène.
Il y a un peu de manque de visibilité par rapport à la clientèle, en sachant que les gens ne savent pas où ils vont aller, qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche. Mais étant très actif sur les réseaux sociaux et sur des conférences internationales qu'on a données, anglais, en français, en espagnol, en anglais et en russe. Ça fait qu'on a eu un drainage de clientèle étrangère supplémentaire. Disons que je manque de marchandises actuellement. Je manque de terrain, je manque de maisons, je manque d'îlots privés. Donc moi je suis assez confiant, quoique l'immobilier polynésien a encore un bel avenir.
Des propos recueillis par Charlie René.
7h35, suite et fin de votre journal présenté par Olis Glaise. Solidarité Productive lance une campagne de crowdfunding pour enraciner son projet.
Après plusieurs années de préparation et de prospection, l'association Solidarité Productive s'apprête à se lancer à Mahina. L'idée est permettre à des ressortissants du RSPF de participer à un projet agricole pour subvenir leurs besoins et se former. Travail de la terre, formation, insertion sociale, les adhérents de Sopro ont imaginé tout un parcours promouvant la solidarité, mais pas l'assistanat, comme le précise Louis Clabé.
On a recherché à savoir ce qu'était la solidarité par rapport à l'assistanat. Et donc pour nous, la solidarité, si tu veux, c'est la prise de conscience entre différentes personnes d'un intérêt commun qui implique et qui oblige à une obligation morale d'assistance mutuelle.
D'accord, donc c'est une nouvelle...
Voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, chez nous, l'assistanat n'existe pas. C'est-à-dire que tu m'aides, je t'aide, tu m'aides, je t'aide, tu m'aides, je t'aide. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Pour le développement de la vie associative, le collectif compte sur ses partenaires institutionnels pour lancer la machine. Ce sont aujourd'hui les particuliers du Fénois d'ailleurs qui sont appelés à la rescousse grâce à une campagne de crowdfunding.
Là, c'est un appel à financement participatif qui va être local d'une part et d'autre part national et international puisqu'on le fait en bilingue. On est obligé de passer par les différents partenaires pour pouvoir en fin de compte mettre l'essence dans la voiture. Et puis une fois que c'est lancé, étant donné qu'on est économie solidaire et sociale, donc il y a bien le terme économique, donc le but si tu veux c'est d'être en autofinancement et même gagner de l'argent pour pouvoir en fin de compte grandir et apporter les fruits de notre travail aux autres.
Le crowdfunding doit avoir lieu via la plateforme KissKissBankBank. Le lien doit être mis en ligne sur la page Facebook de l'association à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.